Le règne animal. Le nouveau film Événement de Thomas Caillet.
C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe.
Un choc absolu pour le Parisien. Un coup d'éclat ahurissant pour Télérama. Absolument bluffant pour Première.
Il y a des survivants, j'en ai vu hier soir.
Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos. Le règne animal, actuellement au cinéma.
Bonjour, je vous propose une émission qui avait été diffusée pour la première fois le samedi 3 avril 2004 et qui s'intitulait « La barbe, religion et société » avec Laurent Theis.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de cette peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
En consul, gouverneur, regardez autour de vous. Le spectacle qui s'offre à vos yeux ne suffit-il pas à évoquer la majesté de Rome ?
Assez récente, le port de la barbe a toujours été un signe de noblesse, un signe de distinction, un signe de royauté même. Seuls les barbus sont respectés. Et vous n'ignorez pas qu'autrefois, les gens ayant fait pèlerinage en Terre Sainte revenaient en portant la barbe. Eux seuls avaient le droit de la porter. Actuellement encore, la barbe...
Et qui sont exactement les mêmes que celle dont nous fûmes comblés, sans en être accablés, depuis le 18 juin 1940.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, j'attendais depuis longtemps l'occasion de parler à Concordance des temps d'un sujet que l'histoire a trop négligé, à savoir les liens qui peuvent exister tout à fait intrigants entre la barbe et le pouvoir. Et voilà que notre ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry, vient de m'en fournir l'occasion. Il a en effet expliqué à propos des débats récents sur la laïcité, je cite, que « dès lors que le port de la barbe serait transformé en signe religieux, il tomberait sous le coup de la loi ». Les réactions ont été, disons, mitigées. En dépit de ce que vous pouvez croire, ce n'est pas la proximité du 1er avril qui m'a conduit à traiter des rapports entre le poil et la politique. Croyez-moi, si vous voulez, c'est là un vrai sujet de l'histoire. Pas facile d'ailleurs à démêler, si j'ose dire. Je relève qu'André Malraux, dans la première édition de son livre fameux « Les chaînes qu'on abat », où il raconte son ultime entretien avec De Gaulle à Colombey, entre souvenirs et rêveries, écrivait ceci. On sait toujours assez mal si c'est lui ou le général qui parle, écrivait ceci, « Je n'ai jamais tiré au clair ce que je pense des modes. Les siècles pendant lesquels les hommes doivent être barbus, les siècles pendant lesquels ils doivent être rasés. » Malraux avait d'ailleurs tellement peu tiré le problème au clair que je me suis aperçu qu'il avait supprimé cette phrase dans l'édition définitive de son livre par la Pléiade, et c'était peut-être l'aveu d'un véritable désarroi. Pour tâcher d'éclairer cette immense question, j'ai invité ce matin Laurent Theis, parce qu'il est un spécialiste éminent à la fois du Moyen-Âge et du XIXe siècle, et parce que chez lui, vous allez le voir, la science se marie fort bien avec l'humour. Deux conditions également indispensables pour traiter d'un sujet d'une portée aussi considérable.
C'est Figaro qui jette un cri d'alarme. Oh là 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 là. Attention, attention, attention. Oui. Car plus avant moi n'emporte la barbe. Oh là 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 là. Se raser devient une obsession. Oui. Non. La 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 la. Triste vie. En vérité, la triste vie.
Pour les barbiers
qui n'ont plus rien à nous couper.
Qui n'ont plus rien à nous couper.
De toutes parts, on ne voit guère,
on ne voit guère
que des mentons,
nus,
comme des vers,
comme des vers,
des mentons nus. C'est dégoûtant,
c'est dégoûtant.
Mais où sont les,
mais où sont les
barbes d'antan, barbes en brosse ou barbes à frisette, barbes en pointe, en collier, en côtelette, barbes jusqu'au nombril,
barbes jusqu'au genou,
barbes bleues, barbes rousses,
barbes marées, barbes à pou.
À présent, c'est zéro, 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 c'est zéro. Oui,
zéro.
Rendez-nous nos barbus, Gambetta et Landru.
Émile Zola, Sadi Carnot,
Le Père Bugeaud,
Victor,
Francelle,
Hugo.
Ah, mes amis, voyez la jolie ronde qu'autour de la terre on ferait dès demain, si toutes les barbes du monde voulaient se donner la main. Ah, mes amis, voyez la jolie ronde qu'autour de la terre on ferait dès demain, si toutes les barbes du monde voulaient se donner la main.
Voilà les barbus qui s'avancent, lui qui s'avance pour sauver, sauver la France, sauver la France et le monde entier.
Parenthèse, bonjour.
Bonjour.
Je suis sûr que je vous aurais déçu si je n'avais pas ouvert notre conversation avec Rossini, réinterprété sur des paroles de Francis Blanche et Pierre Dac, Honneur aux barbus, chanté par les quatre barbus.
Rappelons néanmoins que, conformément à la mode de l'époque, Rossini était tout à fait glabre.
En revanche, Pierre Dac et Francis Blanche font passer dans cette réinterprétation beaucoup de barbus illustres. J'ai noté Gambetta, Bugeaud, Sadi Carnot, Victor Hugo et Landru. Landru.
Ils mériteraient chacun une notice particulière à la lumière d'une science qui est malheureusement peu développée et qui est la pogonologie, c'est-à-dire au fond la connaissance et la science du poil appliquée au fonctionnement des sociétés et peut-être aussi à la connaissance des individus.
Qui est pogonophore et qui ne l'est pas. Pogone, ça veut dire poil en grec.
Voilà, et qui est pogonophobe et qui est pogonophile. Donc il y a là tout un jeu qui traverse les âges, depuis la plus haute antiquité jusqu'au temps présent. Et puisque les quatre barbus nous invitent à commencer par la fin, eh bien on pourrait remonter la période la plus proche, et remonter jusqu'au XIXe siècle, pour voir que la barbe n'obéit pas seulement à des considérations personnelles, mais également à des positionnements sociaux, et quelquefois aussi, vous venez de le dire en citant le nom d'Andru, peut-être à des entreprises amoureuses ou à des conspirations sexuelles.
Alors bon, dans le cas de Landru, par exemple ?
Eh bien, il est certain, car le procès, comme vous le savez, fut un des grands moments de l'actualité judiciaire.
Et de la sensibilité collective, oui, dans l'entre-deux guerres.
Hein. Il est certain que, comment dirais-je, l'homme de Gambet, qui fit connaître cette localité à la France entière, avait envoyé dans son fourneau des personnes qu'il avait attirées, en particulier, disent les survivantes, par sa calvitie, qui miroitait devant elle comme une promesse de bonheur ou de plaisir, et une barbe extrêmement fournie, dont il faut bien le dire qu'il a joué aussi à l'audience, face à un juge également barbu, et qui lui a attiré dans le public des faveurs que ses crimes n'auraient pas dû lui valoir. Pourquoi ? Alors, sans évidemment me passer au nombre des victimes, dans leur position, la barbe de Landru avait ceci que elle participait d'une des deux possibilités de la barbe. Il y a la barbe inculte et il y a la barbe, si j'ose dire, cultivée ou culturée.
Alors qu'il n'y a qu'une sorte de calvitie.
Alors qu'il n'y a qu'une sorte de calvitie, mais qui peut être entretenue de façon différente, soit qu'elle soit accélérée, soit qu'elle soit retardée, selon des procédés sur lesquels il ne convient pas de s'attarder. Mais la barbe de Landru était une barbe taillée, était une barbe nettoyée, et était une barbe, au fond, qui était un élément voulu, ostensible, diraient d'autres, participant de sa séduction. Alors qu'on trouverait d'autres exemples de barbes incultes qui, elles, tombent du côté de la sauvagerie. Au fond, entre le cru et le cuit, dont Lévi-Strauss nous a pris la grande distinction, eh bien, la barbe de Landru tomberait du côté du cuit, alors que peut-être la barbe de Gambetta, sous le Second Empire, tomberait du côté du cru, avant qu'elle revienne du côté du cuit, quand il deviendra président de la Chambre des députés.
Opposant
la barbe hirsute, non entretenue, qui est, au fond, à la fin du Second Empire, un instrument pour manifester son opposition.
Programme de Belleville.
Voilà, programme de Belleville, les nouvelles couches sociales. Et puis, après cela, l'accession au ministère, alors à la présidence de la Chambre des députés. Et je vous ferai observer, et j'en finirai là peut-être sur ce point important entre culture et nature, c'est qu'au moment où la barbe de Gambetta est le plus inculte, je situerai ça au moment du début de l'Empire libéral, 1861 et surtout 1867, la barbe du comte de Chambord, c'est-à-dire une antithèse au fond du projet politique, est également très fournie, mais très soigneusement taillé, grâce au Figaro autrichien qui, quotidiennement, venait porter la coupe et la découpe dans cet instrument dont, malgré tout, sa légitimité paraissait avoir de besoin pour des raisons que je dirais symétriquement inverses à celles de Gambetta.
Légitimité parce que c'était l'héritier de
Parce que c'était encore le prétendant.
Prétendant possible. Alors, nous revenons avec vous aux relations qui sont évidemment au centre de ce propos entre politique et poil, entre la barbe et l'action publique. Je pense que, comme moi, vous avez dû remarquer, Laurent Theis, que quand on fait antichambre dans certains ministères, on voit affiché sur le mur la longue théorie des anciens ministres, de ceux qui ont occupé la fonction. Et alors, c'est une occasion de ne pas s'ennuyer du tout, même si l'actuel tenant du titre vous fait attendre, que de constater l'intéressante évolution des pilosités, qui paraissent évidentes. Et en même temps, regardez, c'est le cas, par exemple, au Quai d'Orsay, les ministres des Affaires étrangères successifs, c'est très très intéressant. Pourquoi certains, comme aurait dit Malraux, sont barbus, d'autres moustachus, d'autres décidément glabres? Voilà une grande question historique.
Ah, sur la pilosité ministérielle et gouvernementale, Jean-Noël Jeannet, vous êtes mieux placé que moi pour parler.
Vous aussi, cher Laurent, vous êtes secrétaire des débats à l'Assemblée nationale et par conséquent, vous en avez vu passer des orateurs, avec ou sans barbe?
Pas dans une tranche de temps suffisante pour que je puisse me livrer à des comparaisons qui soient vraiment utiles à la science.
Un quart de siècle tout de même, un quart de siècle.
Bientôt.
Avec les barbus socialistes du début.
Vous avez raison de dire qu'il y a, dans notre histoire contemporaine, des coupures, si j'ose dire, où la barbe, en effet, laisse place à soit la moustache, seule, qui est un élément constitutif de la barbe, mais qui n'en est quand même qu'une sous-partie, et carrément... à l'absence totale de système pileux. On le voit bien au tournant de la Grande Guerre. Les novateurs dans ce domaine sont aussi des novateurs politiques. Je pense à Georges Clemenceau, qui n'a qu'une paire de moustaches, très, très abondante.
Belle, très belle.
Très belle. Aristide Briand, Léon Blum, et d'autres qu'on connaît moins et qui méritent d'être revisités, comme Joseph Caillaux, par exemple, à la fois chauve et pourvu d'une moustache déjà très, comment dirais-je, très régulée et même très contrôlée.
Sa calvitie était célèbre pour rougir violemment quand il était en colère ou simplement ému.
C'est lui arrivé souvent à la tribune et ailleurs, dit-on. Et puis Pierre Valdez-Crousseau, qui lui-même est un immense ministre, le seul ministre de la Troisième République qui n'ait jamais été mis en minorité, qui se soit retiré de lui-même, et qui lui aussi, lui ou plutôt lui non plus, ne portait pas de barbe et qui était certainement en avance sur son temps.
1899-1902, un long ministère.
Voilà. Rappelons que c'est un de ceux qui ont précédé la mise en place de la loi, préparé les lois de laïcité.
Mais c'est vrai que si on joue un instant à imaginer les présidents de la République du début de la Troisième sans barbe ou les plus récents de la Cinquième République avec des barbes, alors on entre dans une rêverie assez vertigineuse. Imaginez Valéry Giscard d'Estaing avec une grande barbe, Georges Pompidou. Quel est le premier président de la République glabre? C'est une colle.
C'est une colle. J'hésiterais. Je pense que Paul Deschanel était glabre, mais je n'en suis pas assuré.
Non, il avait une très belle moustache. Une très belle moustache.
Nous parlons de la barbe ou nous parlons de la moustache? Là, vous me piégez un peu.
Oui, parce que quand on dit glabre, dans mon esprit, ça vient du latin glaber, je ne vous l'apprendrai pas, qui veut dire qu'on n'a plus aucun poil sur le visage dans son ensemble, qu'on les a coupés.
Oui.
Sur le visage, j'entends.
Oui.
Et par conséquent.
Vous ne confondez donc pas Calvinus et Glaber?
Non. Glabre, donc, sans moustache et sans barbe. Quel est le premier président de la République? Je réitère ma question, quitte à vous embarrasser, mais je ne peux pas croire. Vous êtes tellement bon observateur. Quel est le premier président de la République qui a été glabre?
Eh bien, je pense que c'est Georges Pompidou. C'est René Coty.
René Coty,
que malheureusement on a un peu oublié. Mais la moustache de Vincent Auriol n'était pas non plus très fournie. Elle n'est pas de celles qui ont beaucoup marqué.
Une ombre de moustache reste quand même, comme dans le cadre de Gaulle, un hommage à toutes les pilosités antérieures.
Oui, mais dans le cadre de Gaulle, je pense qu'il s'agit d'un résidu militaire. On voit bien que les chefs de guerre, de Gaulle, avant lui Pétain, Lyautey, d'ailleurs ont progressivement réduit la taille de leur moustache à mesure qu'ils progressaient soit dans l'eau de la hiérarchie, soit vers le pouvoir. La moustache de Pétain de 1914, plutôt de 1916, celle qu'on connaît le mieux, est évidemment beaucoup plus abondante que celle de 1940. À croire qu'en réduisant sa moustache, on perd aussi peut-être de la lucidité ou le sens de l'histoire.
Alors c'est inquiétant pour nos hommes d'État actuels. Mais il me semble que nous sommes déjà sur une piste. Alors avant de nous y avancer, et surtout de revenir en arrière, je voudrais vous faire écouter une archive qui remonte au 1er août 1961. Le bruit avait couru que les Américains auraient mis en place un système chimique pour gagner beaucoup de temps et pour faire que les hommes ne soient plus du tout poilus sur le visage. Évidemment, je ne sais pas comment aurait réagi Gillette, mais c'est une autre question. Écoutez cet extrait d'Interactualité.
Jacques Février, la barbe, c'est le mot qui, 9 fois sur 10, nous vient aux lèvres quand il nous arrive quelque chose d'ennuyeux. C'est dire que cette barbe sans cesse vaincue, sans cesse renaissante, est pour nous tous du sexe mâle une source d'embêtement quotidien. Oui, d'embêtement. Le mot même, si j'ose dire, est faible. Or, il se trouve qu'un cheminot américain, Harry Selmore, pense comme nous tous, le dit et maintenant le crie, le proclame. Au Sénat américain, il a demandé « Libérez-nous ». Libérez-nous de la barbe. Et il a demandé aussi qu'on dégage $1 milliard. Pas moins pour les savants, les chercheurs, qui nous débarrasseront de notre hantise quotidienne. Jacques Février, qui a lui-même une forte barbe, est allé sur place enquêter dans la rue.
Adressons-nous tout d'abord aux intéressés. Premier barbu, sec, nerveux, belle tête d'intellectuel, une barbe à la Lénine.
Mais monsieur, l'humanité n'a pas besoin d'être débarrassée de la barbe. La barbe, c'est la noblesse de l'homme. D'ailleurs, nous avons, nous, les porteurs de barbe, nous avons derrière nous les philosophes qui, bien avant nous, ont su que, pour montrer leur gravité et leur sagesse, le port de la barbe était un insigne, peut-on dire, qui tendait à montrer aussi leur virilité. Car, enfin, cette barbe, monsieur, c'est un signe de virilité. Tenez, dans ces pays d'outre-mer qui viennent d'acquérir une libération assez récente, le port de la barbe a toujours été un signe de noblesse, un signe de distinction, un signe de royauté même. Seuls les barbus sont respectés. Vous n'ignorez pas qu'autrefois, les gens ayant fait pèlerinage en Terre Sainte revenaient en portant la barbe. Eux seuls avaient le droit de la porter. Actuellement encore, la barbe, dans certaines régions, est un signe de deuil. Ça, c'est autre chose. Mais, monsieur, la barbe, toute la barbe, c'est l'homme.
Deuxième barbu, 65 ans environ, yeux rieurs, la barbe inculte.
J'ai souhaité pendant longtemps pouvoir supprimer la barbe, mais je n'ai jamais eu l'idée d'y consacrer $1 milliard. J'ai préféré la laisser pousser pour qu'elle me foute la paix, tout simplement. J'arrivais plus à me raser, n'est-ce pas ? Il semble que la solution est beaucoup moins onéreuse de la laisser pousser comme on veut, comme monsieur par exemple. Comme ça, il n'y a plus besoin de rasoir. Le rasoir, c'est le type qui demande $1 million, $1 milliard. Il me semble, à mon avis. C'est pas...
Là, en tête, on retrouve là l'opposition que vous esquissiez tout à l'heure entre les barbes incultes et les barbes cultivées. Mais je vous ai vu lever un sourcil désapprobateur lorsque le premier intervenant parle de la barbe au retour de la Terre Sainte.
Oui, peut-être ce barbu-là est-il plus savant que moi qui ne le suis pas. Mais
fausse modestie de médiéviste.
Je n'ai pas entendu dire qu'un voyage au tombeau des apôtres à Rome ou celui de l'apôtre Jacques à Compostelle ait valu le port de la barbe. En réalité, la barbe et la religion ont partie liée depuis fort longtemps. Je ne sais pas si nous devons nous aventurer immédiatement sur ce terrain.
Si, allons-y, oui, aventurez-vous.
J'aurais voulu d'abord, si vous m'y autorisez, relever le fait que la barbe, preuve de virilité, a dit le premier intervenant. Je voudrais signaler à nos contemporains, à nos contemporaines, que depuis longtemps, il est des barbes qui chantent plus qu'elles ne parlent et qui promettent plus qu'elles ne tiennent. Et donc, véritablement, ceux qui ne sont pas barbus, c'est-à-dire aujourd'hui la majorité de nos concitoyens, il suffit de lever les yeux dans le métro pour s'en convaincre, pourraient se sentir, à juste titre, offensés. De ce point de vue, cet entretien date un peu et permettrait, dans la pogonologie dont je parlais tout à l'heure, d'esquisser une étape qui donc se situe il y a maintenant quelques décennies.
Donc vous rassurez les glabres et ceux qui sont portés à leur manifester de la tendresse.
Et puis enfin, tout glabre est un barbu qui s'ignore.
Alors la sagesse, le savoir, le respect.
Eh bien, on pourrait commencer
jusqu'à l'Antiquité, oui.
Ah oui, on pourrait commencer par une non pas une anecdote, mais l'iconographie de la basse Antiquité, l'iconographie paléochrétienne,
oui.
Que Jean-Noël Jeannet, vous connaissez comme moi, a comporté pendant les premières représentations du Christ datent, en gros, nous n'allons pas rentrer dans les détails, je pense, du 3e siècle. Il n'y en a guère précédemment. Or, on en trouve jusqu'au 4e siècle, où le Christ est figuré, si je puis dire, en cheveux. Pourquoi est-il en cheveux longs ? Pourquoi le Christ, sans aucun doute, a-t-il été chevelu ? Eh bien, parce qu'il appartient à cette tradition juive, qui est celle du Nazira, c'est-à-dire celle de Joseph, celle de Samson, celle de ceux qui se consacrent à Dieu, qui vouent à Dieu leur existence. Et cette dévotion, cette tradition, est d'abord montrée par le fait qu'on ne touche pas au système pileux tel que Dieu vous l'a donné. Le Christ est figuré en cheveux parce qu'il est voué à Dieu, mais sans barbe. Ces représentations ne sont pas très nombreuses. À mesure qu'elles passent d'Orient en Occident, la barbe apparaît. Pourquoi ? Mais elle apparaît en effet, et vous le suggériez tout à l'heure, et l'intervenant que nous avons écouté aussi, c'est qu'il n'était pas possible que dans cette succession de la puissance, du savoir et de la sagesse qui établit un lien avec la divinité, le Christ ne fût pas situé dans cette théorie qui va au fond de Moïse, Joseph, mais aussi qui prend d'autres chemins, par exemple celui de Socrate, dont nous ignorons s'il était barbu ou non, mais toutes les représentations antiques montrent tardive, puisque nous n'avons pas de portrait contemporain, qu'il était muni d'une barbe.
Une barbe, oui, en effet, pleine de rouleaux.
Car il n'était pas concevable que le savoir et la sagesse ne fussent pas situés dans la barbe, à tel point que Barbatus, en latin, vous en trouveriez des citations dans les lettres à Atticus de Cicéron, vous en trouveriez des références aussi chez le poète perse, que malheureusement on ne lit plus beaucoup, où Barbatus signifie philosophe, tout simplement. Veut dire, de barbu, on passe à ancien, d'ancien, on passe à quelqu'un qui vivait autrefois, à l'époque où on portait la barbe, et de là, nous voilà dans une acception qui court-circuite cette transition. Barbatus, barbu, signifie tout simplement philosophe,
mais alors,
sage ou simple.
Mais alors, Luc Ferry, qui m'a donné l'occasion de cette émission, qui est philosophe, n'est pas barbu.
Sur Luc Ferry et la philosophie, il est difficile maintenant de s'exprimer tout à fait. Mais on pourrait prendre d'autres personnages emblématiques du savoir.
Choisissez.
Je pense à Darwin, par exemple, dont on ne peut pas, on peut mal penser qu'une partie de son savoir, et même de la théorie de l'évolutionnisme, n'ait pas été située dans une barbe qui est elle-même évolutive et dont on sait qu'elle n'a cessé de croître tout au long de ses recherches et de ses découvertes.
Est-ce qu'il n'y a pas, au Moyen-Âge, l'idée d'autre part que la barbe est un don de Dieu et que par conséquent, il ne faut pas s'y attaquer? Je vois que Clovis a rétabli l'usage de porter la barbe, mais courte, de façon à conserver au visage une expression sévère. Et depuis le siècle précédent, les docteurs de l'Église sont formels lorsqu'ils s'adressent aux populations. Tu ne détruiras pas les poils de ta barbe, tu ne changeras pas l'expression naturelle de ton visage et tu resteras tel que Dieu t'a créé.
Voilà, il s'agit d'une sorte de circulaire religieuse qui a été utilisée à des fins quelquefois partisanes et en tout cas généralement séculières. On ne peut pas dire que l'Église ait fait usage de cette prescription à tout moment, puisque, à la différence de la tradition hébraïque, quiconque dans la culture chrétienne, dans la civilisation chrétienne, se consacre à Dieu et entre en religion, fait au contraire sacrifice de sa barbe, s'il en a une, et de sa chevelure, en tout cas. Vous savez que la tonsure marque le passage de l'état laïque à l'état ecclésiastique très tôt. Dès le 4e ou 5e siècle, on peut voir que la tonsure devient le signe distinctif en Occident.
Oui,
car en Orient, il en va autrement.
Oui. Au Mont Athos, il y a de belles barbes, me dit-on.
Il y a de belles barbes et il n'y a pas de tonsure, surtout. On porte dans les traditions orientales, qu'elles soient orthodoxes ou qu'elles soient catholiques grecques, ou syriaques et d'autres encore, ou abyssines, on porte la chevelure et la barbe intégralement. Ce qui veut dire que pour rejoindre la divinité, la barbe ou au contraire la calvitie sont des véhicules également efficaces.
Vous revenez à la période de l'Empire romain tardif. On est frappé de cette alternance qui déjà pouvait intriguer Malraux dans la citation que je donnais, entre les périodes effectivement où on ne porte pas la barbe. César ne porte pas la barbe et puis on revient avec Adrien par exemple qui porte une barbe. On disait que c'était parce qu'il avait des imperfections à cacher.
C'est ce qu'on a dit aussi pour certains rois valois. Notamment, on l'a dit pour François Ier aussi. Qu'en effet, la mode, c'est là, si vous voulez, qu'il faut être extrêmement prudent et que le matérialisme historique ne peut pas fonctionner à plein en dehors des déterminations personnelles. Il est certain que pour masquer une cicatrice, on est prêt quelquefois pour masquer un défaut de la nature, une dentition mal rangée. Choses qui se rencontrent dans toutes les sociétés, à toutes les générations.
Et si on est empereur au roi, alors tout le monde se met à imiter, c'est ça que vous nous dites?
Cela arrive. En effet, à l'époque du roi Louis XIII, c'est en effet ce qui, sans doute, est une des explications, mais ça n'est pas la seule. Mais je voudrais revenir sur la barbe de l'Antiquité juste un instant. En effet, sous la République romaine, dans les meilleures heures de la romanité, on ne porte pas la barbe. Néanmoins, il y a un discriminant politique qui fait peut-être que la barbe a été éliminée à l'époque de César et de Cicéron. Vous vous souvenez, Jean-Noël Jeannet, qu'à la bataille de Pharsale, qui opposa les Pompéiens aux Césariens, le proconsul Domitius Aenobarbus, le nom signifie barbe couleur de cuivre, a été tué, il était anti-césarien, alors que son cousin Domitius Calvinus, le chauve, lui, a été un césarien que Jules César a richement doté en fonction, en pouvoir et en gloire. Et il est vraisemblable ou possible que le vaincu de l'histoire, Aenobarbus, a emporté, si je puis dire, sa barbe dans son tombeau avant qu'elle soit ressuscitée à la fin du premier, au courant du deuxième siècle, par les empereurs à la suite d'Adrien que vous avez mentionné.
Il a en quelque sorte compromis la barbe pour plusieurs décennies.
Voilà.
Alors venons-en à Louis XIII que vous venez d'évoquer. Écoutez cette chanson qui date de l'époque.
Et
hélas, ma pauvre barbe, qui est-ce qui t'a fait ainsi?
C'est le grand roi Louis XIIIe du nom qui tout a éparpé sa maison.
Laissons la barbe en pointe aux cousins Richelieu, car par la vertu bleue, qui serait si osé sa barbe lui vouloir raser?
Maréchal de la force, que je vous fasse aussi.
Non, non, sire, merci, ne me la faites pas.
Point ne connaîtrez vos soldats.
Alors voilà, Laurentaille, c'est un vrai acte d'autorité, obligé à couper la barbe avec protestation des uns et des autres. Le pauvre maréchal de la force qui demande merci.
Eh oui. Et vous savez que le maréchal de la force, pour protestantisme, a été décapité. Était-ce en lien avec la barbe? C'est ce que je ne saurais pas dire. Ce que nous voyons concentré dans cette chanson, résumé dans cette chanson, c'est un très fort effet de génération. De même, car il y a des précédents à cette situation, de même que quand le jeune Charles VI est arrivé au pouvoir à la fin du XIVe siècle, il a éliminé, au fond, ce qu'on appelait les marmousets, c'est-à-dire les petits vieux, chenu, barbu, ou pas barbu, mais peut-être barbu à l'intérieur du crâne, c'est une barbe qu'il faut également considérer.
C'est-à-dire ?
Pour que là, vous voyez bien ce que je veux dire par là, au profit d'une jeunesse qui, elle, était encore relativement imberbe.
J'essaye de comprendre.
Et nous savons, je vous expliquerai hors antenne, et nous savons que Charles VI, à la différence de son père, ne portait pas la barbe. Eh bien, de même, lorsqu'une nouvelle génération accède au pouvoir, après tous ces troubles des guerres de religion, après, en effet, tous ces barbus qui sont Duplessis Mornay, qui sont Agrippa d'Aubigné, qui sont beaucoup d'autres, mais qui sont surtout Sully, eh bien, pour... je risque des hypothèses. C'est ce que nous faisons ce matin, je crois.
Oui, allez-y.
Pour, au fond, se débarrasser de l'emprise de ces personnages qui étaient aux affaires depuis plusieurs décennies, pour marquer cette rupture entre le fils et le père, vous savez que les rapports qui n'ont pas été très longs, entre Louis XIII et son père Henri IV, rétrospectivement, n'ont pas été bons, eh bien, le mieux a été, de façon ostensible, de faire disparaître la barbe, et Sully s'en est vivement ému.
D'ailleurs, il y a une anecdote qui est tout à fait, qui symbolise ça, c'est quand Sully vient voir le roi Louis XIII et qu'il est moqué par un certain nombre de jeunes courtisans qui rit de son accoutrement pileux. Et alors le grand ministre dit à très haute voix au roi: « Sire, lorsque votre père de glorieuse mémoire me faisait l'honneur de me consulter sur ces grandes et importantes affaires, au préalable, il faisait sortir les bouffons et baladins de cour. »
Voilà. Il veut nommer des personnages comme Charles d'Albert, le duc de Luynes, et d'autres qui, en effet, n'exhibent qu'une courte moustache et une toute petite barbe, et appelons-la même une mouche, davantage qu'une barbe. Il y a un rétrécissement pileux très fort qui est un signe d'entrée dans la modernité, d'autant mieux que, vous le savez, aucun roi de France ou des Français ne sera plus, on en comptera 6, sauf erreur après Henri IV, ne portera franchement la barbe.
Donc effet de génération, flux et reflux, une espèce d'automaticité, et pourtant ça ne suffit pas. Parce que, par exemple, si je reviens un instant au Moyen-Âge, j'ai lu que, pour un certain nombre d'historiens spécialistes de cette période, le fait de faire pousser sa barbe était le signe qu'on renonçait au pouvoir. On a évoqué ça, par exemple, à propos de Philippe Séguin, quand il a quitté pratiquement la politique et qu'il est revenu du Canada barbu. On l'a remarqué la même chose pour Gore après sa défaite. Et on l'a même vu sur le menton de Marc Blondel, au moment où il s'apprêtait à quitter le secrétariat général de Force ouvrière.
La monarchie de Marc Blondel ne fait aucun doute.
Pardonnez ces rapprochements hardis, c'est le jeu.
Je suis un peu étonné de ce que vous me dites.
Non mais c'est vous le médiéviseur, contredisez-moi sans hésiter, si je me trompe.
Alors je vais le faire très directement. Au contraire, en tout cas pour la période que je connais le moins mal, le fait de couper la barbe et les cheveux à quelqu'un de lignée royale, c'était immédiatement, comment dirais-je, l'exhéréder, le sortir de la possibilité d'exercice du pouvoir.
Non, mais ça, c'est du dehors, tandis que la volonté soi-même. Est-ce qu'il est faux de dire que Charles Quint a fait pousser sa barbe lorsqu'il a renoncé au pouvoir?
Disons qu'il l'a laissé se développer quand il est entré au monastère de Yuste.
Ah, donc vous allez dans mon sens, une petite concession.
Non, parce qu'il est encore resté empereur titulaire. Et je ne dirais pas qu'il s'agit d'un renoncement au pouvoir. Je dirais qu'il s'agit davantage d'un renoncement à caractère, ou plutôt d'une dévotion à caractère religieux. De même qu'il se retire dans son monastère, d'une certaine manière, Charles Quint fait vœu d'érémitisme. Il est très remarquable que dans la tradition chrétienne, les religieux qui sont autorisés à porter la barbe, mais cette fois une barbe inculte, ce sont en effet les ermites. Pensons aux saints stylites en Haute-Égypte, mais pensons également aux chartreux, depuis leur création par saint Bruno, vous le savez, à la fin du XIe siècle. Les chartreux font partie des rares religieux réguliers, ils n'ont pas d'abbé, mais ils ont a priori, ils sont réguliers, à être non seulement autorisés, mais à être encouragés, pour ne pas dire obligés, de porter la barbe. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'agit en effet de montrer qu'ils sont eux-mêmes, non pas dans le monde, mais déjà hors de ce monde, ils sont dans ce désert qui fut celui de Saint-Pacôme, de Saint-Antoine, celui qui est représenté admirablement par Fra Angelico lorsqu'il représente la Thébaïde. On voit que la Thébaïde, donc cet endroit où se trouvaient les ermites égyptiens du 3e au 5e siècle, tous ces personnages, tous ces religieux sont barbus, alors que les contemporains de Fra Angelico, les religieux, ne sont pas barbus, sauf les chartreux. Et les chartreux, c'est parce qu'ils se sont voués à l'exil au sein du monde, à l'érémitisme, à l'isolement, au fond, à une forme de nature naturée, non pas naturante, naturée par la divinité, qu'ils ont laissé pousser sans entretien tous leurs appendices. Et là, nous sommes du côté de la barbe inculte et non pas du côté de la barbe cultivée. Donc nous sommes du côté de la sauvagerie, au sens où on l'entendait à cette époque, et non pas du côté de la civilisation avec les pollutions dont elle est lourde.
Donc vous ne me faites aucune grâce et vous n'acceptez pas, vous m'empêchez tout rapprochement décidément avec Al Gore, Marc Blondel ou Philippe Séguin, parce qu'on n'imagine pas une barbe inculte. C'est un retrait du monde dont vous parlez pour vos religieux, alors qu'ici il s'agit seulement, c'est moins important, d'un retrait de la politique. Un dernier mot à propos du Moyen-Âge, qui va d'ailleurs, je vous rends les armes dans votre sens. Il y a un roi dont vous avez fait la biographie, Laurent Taille, c'est Robert le Pieux. Lui aussi était célèbre pour sa barbe, il en avait vraiment une ?
Alors là, vous me mettez sur un terrain qui m'enchante, mais qui m'oblige à un petit développement. Rassurez-vous, il sera très bref. Nous avons une description physique du roi Robert le Pieux, dont je rappelle qu'il était le fils du Capet, donc le deuxième Capétien. Il a régné entre 996 et 1031. Et nous avons une description faite par le moine Elgo de Fleury, qui écrivait dans les années 1032, donc juste après la mort du roi. C'est la seule description physique que nous ayons du roi Robert le Pieux, Elgo l'avait bien connu, mais en même temps, les plus savants que moi repèrent que dans la description de cette barbe blanche et brillante, eh bien, il y a véritablement une rhétorique qui reprend, au fond, des stéréotypes puisés dans l'Ancien et le Nouveau Testament, mais surtout l'Ancien Testament, aussi d'ailleurs dans la littérature antique, chez Suétone, qui font apparaître les personnages prestigieux comme munis, à tout âge, d'une barbe blanche et éclatante. Il paraît néanmoins certain qu'après la période carolingienne où la barbe a été proscrite, on voit revenir dans les premiers siècles capétiens, pas très longtemps, deux siècles et demi, jusqu'avant Philippe Auguste, la barbe comme, au fond, renouant avec la tradition franque, c'est-à-dire celle du roi Dagobert, par exemple, et de Saint-Éloi, qui n'avait pas de barbe, mais qui tirait celle de son roi, et qui s'interrompt à l'époque de Charles Martel, ou de Pépin le Bref, je ne peux pas vous dire exactement. Et j'attire votre attention, mais vous l'avez déjà remarqué, sur ce paradoxe qui fait que l'on parle de Charlemagne, l'empereur à la barbe fleurie, alors que Charlemagne ne portait qu'une moustache et avait proscrit la barbe pour lui-même et pour son aristocratie. Il s'agit là d'un cas intéressant, du point de vue pogonologique qui nous intéresse, d'une assimilation entre l'empereur Frédéric Barberousse, qui lui était assurément barbu, et l'empereur Charlemagne, confondus tous les deux, comme le grand saint empereur de l'Allemagne.
En somme, une sorte de compétition rétrospective entre les deux souverains.
Oui, je pense qu'on a rabattu sur Charlemagne l'insigne par excellence de la royauté impériale qui a été incarnée, comme vous savez, par Frédéric Barberousse, dont la barbe a continué à pousser alors qu'il était enseveli en Thuringe dans un tombeau dont on a longtemps dit, jusqu'au romantique allemand, qu'il allait sortir pour rendre à l'Allemagne la gloire qu'elle avait perdu et que, hélas, au XXe siècle, elle a tenté de retrouver par d'autres moyens.
Romantique allemand, vous m'entraînez, vous avez raison, jusqu'au XIXe siècle. Il faut parler maintenant des barbes au XIXe siècle, c'est-à-dire, oui, il le faut, poil et révolution, poil et contre-révolution. Pour juste donner le ton, je voudrais vous faire entendre quelqu'un qui a été, s'est affirmé comme un grand révolutionnaire, en tout cas comme un surréaliste ostensible ou ostentatoire, je veux dire Salvador Dali, écoutez-le, dans les années 50, parler de sa moustache.
Vos moustaches sont très célèbres, comment faites-vous pour les faire tenir?
J'avais commencé avec des dattes, avec le jus des dattes, le sucre. D'ailleurs, c'était une recette que j'avais trouvée dans les Mille et une nuits. Il y avait un prince qui utilisait les dattes. Maintenant, j'utilise de la pommade hongroise. Et quand je mets beaucoup de cette pommade, ils arrivent à avoir une consistance qui est très semblable à la matière de la corne de rhinocéros, laquelle est formée précisément par des poils aussi collés, par une espèce de pommade qui n'est pas hongroise, mais qui est très, très semblable.
Admirable Dali. Alors, Laurent Theis, commentaire.
Avec un génie insurpassable. Dali s'inscrit néanmoins, et c'est quand on connaît sa personnalité, on sait à quel point ce visionnaire était aussi un grand réactionnaire assumé, il s'inscrit dans une tradition qui est très longue. Les onguents utilisés pour leurs moustaches et leurs cheveux par les Assyriens nous sont connus par les archéologues avec toutes sortes de baumes dont nous pourrions fournir ici, si nous avions le temps, la composition. On voit bien aussi que à l'époque de Louis XIII, dont nous parlons, l'entourage du roi frisote sa moustache, là aussi, pour la faire tenir soit à l'horizontale, soit même en croc, ce qui est
un signe plus difficile
et qui est un signe d'excellence et de bravoure.
Un peu comme Hercule Poirot faisait
Agatha Christie. Ou comme Guillaume II. C'était un exercice auquel Guillaume II devait se livrer tous les jours pour maintenir sa moustache.
Un esclavage.
En faisant violence, si vous voulez, à la loi de la gravitation universelle. Un demi de gamma T2 ne s'appliquait, devait être combattu par toutes sortes d'onguents. On trouverait de belles descriptions aussi, évidemment à des fins polémiques, chez Émile Zola dans La débâcle ou dans Son Excellence Eugène Rougon. Pardonnez, j'en ai ma mémoire défaillante sur ce point comme sur beaucoup d'autres.
Nos auditeurs savent bien ce qu'il en est.
Décrivant Napoléon III partant pour son dernier combat à la fin de juillet 1870, fardé et la moustache surchargée d'onguents pour lui donner encore une allure batailleuse ou belliqueuse, alors que l'homme, en réalité, comme son régime, est totalement à bout de souffle.
Là encore, il y a une sorte d'alternance de génération, puisque la génération de la Révolution et de l'Empire est imberbe et glabre, alors qu'on voit après les Trois Glorieuses, en gros, on voit à partir de 1830, réapparaître vraiment le plaisir qui est désormais licite pour les Français de porter une moustache, une barbe, des favoris. On voit apparaître la mode des barbes à la Saint-Simonienne, les barbes à la Moyen-Âge, les barbes circulaires, les barbes à la Charles IX, les barbes à la Ambroise Paré. Puis c'est la mode des favoris à l'anglaise qui commence à apparaître, whiskers.
Alors, le favori, par les spécialistes, n'est pas véritablement considéré comme une barbe. Mais comme nous parlons aujourd'hui de pogonologie générale...
Oui, je suis prêt à étendre notre curiosité aujourd'hui jusqu'au favori.
Oui. Qui ont eu une vie relativement courte. Car les premiers favoris, nous les voyons apparaître, si j'ose dire, sous la Restauration. Et nous les voyons disparaître, véritablement, ils ne passent pas la Grande Guerre.
Oui, mais même...
Sauf exception.
Jules Ferry est un des derniers emblèmes de ce type de mode.
Au niveau qui était le sien, certainement. Encore que je ne suis pas sûr que Jules Méline, un peu plus jeune, ne les ait pas portés aussi pendant un certain temps, mais nous pourrions éclaircir ce point un peu plus tard.
Il y aura une analyse d'ailleurs sociologique. Il me semble que ce sont les avocats, les gens de loi qui ont le plus tard porté les favoris.
C'est à voir, parce que François-Joseph lui-même, qui avait les plus beaux favoris d'Europe, les a portés jusqu'à sa mort, après avoir porté une barbe dans les 5 ou 6 premières années de son règne.
Plus notre conversation avance, Laurent Theis, plus je suis frappé du fait que nous ne pourrons qu'effleurer cet immense sujet. Il y a toute la question de la sociologie, toute la question de la géographie du poil, de la barbe.
Il faudrait aussi parler de la santé et de la médecine, car on sait à quel point les barbes et les chevelures trop abondantes ont recélé toutes sortes de moucherons, de puces, sont des vecteurs de maladies. Et on dit même que, sous la reine Marie-Antoinette, où les coiffures avaient pris une dimension démesurée, certains rongeurs venaient nicher dans ces coiffures, où ils se trouvaient tout à fait à leur aise pour faire leur nid.
La barbe apparaît au XIXe siècle comme essentiellement d'opposition contestataire. Les moments de la bataille d'Hernani, les genoux, autrement dit, les calvities sont sont au parterre et au balcon, on trouve les chevelures romantiques.
C'est une distinction qu'on pourrait suivre, qu'on pourrait filer, si vous me permettez l'expression, tout au long du siècle. En effet, la chevelure de Théophile Gautier n'a pas été pour rien dans le succès de la bataille d'Hernani face au fond à qui ? Eh bien, je dirais aux idéologues, face aux derniers descendants des idéologies du XVIIIe siècle, représentés par... il y a là aussi un effet de génération. Vous noterez néanmoins que c'est un point qui m'a toujours frappé, et nous pourrions essayer de l'élucider ensemble, que Victor Hugo n'est venu à la... qui aujourd'hui est un barbu emblématique. Souvenons-nous des billets de banque de 5 des nouveaux francs, qui n'ont plus cours, comme vous savez. Eh bien, Victor Hugo, toujours représenté avec une barbe, n'est devenu barbu que très tardivement. Comme légitimiste, il ne portait guère la barbe, puisqu'il était... et jusqu'à la fin de la monarchie de Juillet, il était tout à fait en correspondance avec les pouvoirs politiques de l'époque.
En exil.
À Guernesey, hein. Il reste encore longtemps, c'est ce qui m'a frappé lors d'une récente exposition, il reste longtemps sans barbe.
Les photos.
Et véritablement, je pense que c'est au moment où les chances des républicains réapparaissent, notamment par les élections de 1867, que la barbe chez Victor Hugo devient un emblème à la fois de sagesse, bien entendu, réinterprétée, mais également une position politique.
Donc c'est plus seulement... quand il est en grande distance par rapport au régime de Napoléon, le petit, il reste glabre, et c'est quand l'espérance revient qu'il se mettrait à laisser pousser sa barbe. C'est ça l'hypothèse de Laurent Theis.
C'est-à-dire que je me suis un peu gêné d'accrocher à la barbe de Victor Hugo une notion d'opportunisme. Mais néanmoins, il se met, lui, ce grand veillard, il se met dans le courant.
Pas de l'opportunisme, c'est une manière. Écoutez, il avait prouvé en tout cas qu'il était capable pendant longtemps de ne pas être opportuniste. Donc cette barbe, finalement, nous pouvons la saluer.
Nous pouvons la saluer parce qu'il est encore. Il est un républicain sous l'Empire. Et les républicains sous l'Empire, en effet, affichent presque toutes une barbe foisonnante.
Ce qui frappe aussi, c'est que cette histoire est faite à la fois de sérieux. On peut être très sérieux, nous avons été très sérieux depuis le début de notre conversation,
oui,
bien
sais
sûr.
Pas ce que vous
ou bien l'occasion de plaisanteries de toutes sortes. Alors, je ne voulais pas que nous nous quittions sans que je vous ai fait entendre Miss Tinguette, qui a chanté une chanson qui s'appelle Les Barbus en 1930. Laurent Theis, je vous l'offre.
L'autre matin, je me promenais au bois quand tout à coup j'aperçois un gentleman devant moi. Depuis un instant, je savais qu'il m'avait vu. Je riais à son insu, le trouvant par trop barbu. S'approchant de moi, il me fit un petit compliment. Mais bien gentiment, je répondis tout simplement. Oh, monsieur, je voudrais bien savoir comment font les barbus en se couchant le soir. Mettent-ils leur barbe sur les draps pour qu'on puisse la voir? Mettent-ils leur barbe sous les draps pour qu'on ne la voie pas? Allons messieurs les barbus, la mettez-vous par-dessus, la mettez-vous par-dessous. Dites-le, dites-le, dites-le nous. Oh, monsieur, je voudrais bien savoir comment font les barbus en se couchant le soir. Je dînais l'autre soir sur les grands boulevards. On me présente par hasard un monsieur Tristan Bernard. En me disant de lui, il est très rigolo. C'est un drôle de numéro et c'est le roi des bons mots. Brave Tristan Bernard voulut me faire un mot d'esprit. Mais sans lui laisser le temps gentiment, je lui ai dit: oh, monsieur, je voudrais bien savoir comment font les barbus en se couchant le soir. Mettent-ils leur barbe sur les draps pour qu'on puisse la voir? Mettent-ils leur barbe sous les draps pour qu'on ne la voie pas? Allons, messieurs les barbus, la mettez-vous par-dessus, la mettez-vous par-dessous. Dites-le, dites-le, dites-le nous. Oh, monsieur, je voudrais bien savoir comment font les barbus en se couchant le soir. Oh, un petit rouquino. Oh, il est tellement rouquin qu'il va prendre feu, celui-là. Oh, une barbiche, on dirait un petit bouc. Tiens, monsieur Chéron. Oh, excusez-moi, monsieur Chéron, je voudrais vous demander un petit renseignement. Ma curiosité a fait un grand chemin, car tout le monde, c'est certain, voudrait bien savoir enfin ce font les barbus avant de se coucher. Au Sénat, je dois l'avouer, cette question l'a fut posée. L'autre jour, pendant que parlait un brave sénateur, on entendait la foule qui s'écriait tout en cœur. Oh, monsieur, je voudrais bien savoir comment font les barbus en se couchant le soir. voir. Mettent-ils leur barbe sur les draps pour qu'on puisse la voir? Mettent-ils leur barbe sous les draps pour qu'on ne la voie pas? Allons, messieurs les barbus, la mettez-vous par-dessus, la mettez-vous par-dessous. Dites-le, dites-le, dites-le vous. Oh, monsieur, je voudrais bien savoir comment font les barbus en se couchant le soir.
Miss Tinguette, que nous entendions, brode sur une vieille plaisanterie. La barbe, où est-elle quand on s'endort? Hergé a repris d'ailleurs la plaisanterie à propos d'Adoc dans un album fameux. Mais ce qui m'intéresse plus, Laurent Teil, ce sont les personnages qui passent. Nous avons Tristan Bernard, on voit bien qui c'est. Puis il y a Chéron, personnage un peu oublié, mais qui a compté notamment au Sénat. C'est un élu de Normandie, hein, qui a été ministre de l'Agriculture, ministre des Finances.
Henri Chéron, mais vous le connaissez mieux que moi, est en effet un élu qui était réputé pour sa barbe très tôt blanche, abondante, et déjà un peu décalée à une époque où les barbes à l'Armand Falière perdaient du terrain, au profit de barbes mieux maîtrisées. Et c'était quelqu'un qui est réputé aussi pour son coup de fourchette et, dit-on, sa bonhomie. C'est pourquoi, après la Grande Guerre, il fut envoyé aux États-Unis comme ministre des Finances pour négocier cette question des réparations, des remboursements d'emprunts de guerre, afin d'étaler les échéances pour un trésor français qui était très appauvri. Et il semble qu'il ait fait relativement merveille auprès des financiers et des décideurs américains par son côté justement très continental, très français et de ce que la France a de plus profond ou de plus bas.
C'est l'époque où les Yankees étaient déjà pratiquement tous glabres. On le voit déjà avec Wilson, avec les différents banquiers qui viennent dans ces années-là. Il est toujours assez bon pour négocier de se plier aux stéréotypes que les gens d'en face peuvent avoir de vous. Ça rassure.
C'est exact.
Mais je voudrais rester, pour finir notre conversation, en rester à une période qui est très intéressante et évidemment et qu'on peut particulièrement rapprocher de nos débats actuels. Je veux dire le moment où le ministre de l'instruction publique de Napoléon III, au début de l'Empire autoritaire, après le coup d'État, Hippolyte Fortoul, on est en mars 1852, engage tout à coup une répression très brutale contre les adversaires du nouveau régime au sein de l'enseignement public, et il croit pouvoir les repérer au fait qu'ils portent la barbe. Et il produit une circulaire destinée à faire disparaître dans l'université, je cite, les dernières traces de l'anarchie. Et il explique, il faut que les recteurs ne souffrent pas, que les professeurs paraissent devant leurs élèves en costume négligé, qu'ils laissent croître leur barbe et qu'ils affectent ainsi dans leur extérieur des manières peu compatibles avec la gravité du professorat. On a d'ailleurs un récit tout à fait amusant de cet épisode vu depuis la province dans les mémoires de Francisque Sarcey, qui était ensuite très connu comme critique littéraire, et qui raconte avec beaucoup d'allégresse le chagrin du censeur du lycée, qui était jusque-là pourvu d'une barbe admirable, relevant, dit-il, une physionomie assez ordinaire. Et puis l'embarras du recteur lui-même qui tenait à son collier. Alors, vous connaissez cette affaire, vous savez comment ça s'est terminé?
Alors, est-ce qu'il m'appartient de prendre la défense d'Hippolyte Fortoul?
Allez-y, il faut toujours être à contre-courant de la pente ordinaire des opinions générales.
Il est certain qu'il a mis du zèle à exécuter ce qui était la pensée profonde du prince-président, nous ne sommes pas encore sous l'Empire, et où, justement, le retour à l'Empire se prépare, et où il s'agit d'éliminer ce qui pouvait subsister, au fond, de révolutionnaire dans l'esprit de 1848, où les barbus, de droite et de gauche, mais qui voulaient manifester leurs préoccupations sociales, je pense à Frédéric Ozanam, mais aussi à d'autres, portaient très largement et très facilement la barbe. Et dans cette reprise en main, qui en effet prélude au rétablissement de l'Empire et à sa période autoritaire, il s'agit d'une mesure disciplinaire dont je crois qu'une lecture attentive montrerait qu'elle n'est peut-être pas aussi barbicide que nous pouvons le croire, puisqu'il s'agit de non pas de supprimer, le texte ne le dit pas, mais de ne pas laisser croître. Je penche donc pour une interprétation d'une barbe maîtrisée, nettoyée, contrôlée, pédagogique, qui montrerait que, dans la barbe, comme dans le reste, la tempérance et la maîtrise de soi sont les qualités qui font les bons Français.
Je salue en vous cette défense et illustration d'Hippolyte Fortoul.
Et j'ajoute mais sans le savoir, Hippolyte Fortoul s'inscrit dans une tradition ancienne. Vous vous souvenez, Jean-Noël Jadenet, que quand... En 1600, au milieu du XVIIe siècle, 1644-1645, la dynastie Manchou, des Qing, s'est installée en Chine. Elle a fait couper la natte à tous les fonctionnaires et dignitaires chinois des Han. Pourquoi ? Eh bien, en effet, pour mettre de l'ordre et pour montrer qu'on entrait dans la voie d'une conception salutaire de l'exercice du pouvoir. Deuxième référence historique, et j'en m'en tiendrai là pour ne pas vous lasser. Souvenez-vous, souvenons-nous à quel point au XVIIIe siècle, au début, dans les toutes premières années du XVIIIe siècle, Pierre le Grand a usé de contraintes violentes, car là, il y a eu des condamnations et des exécutions à mort.
On a coupé des têtes barbues, resté barbu contre sa volonté.
Qu'il s'agisse de la République française appelée à devenir l'Empire, il s'agit de maîtriser les fonctionnaires, c'est une tâche immense, comme vous savez, il s'agit de maîtriser les fonctionnaires en commençant par les signes apparents qui pourraient laisser croire à une indiscipline, puisque le dehors, naturellement, plaide ou exprime le dedans. Et donc, le fait de porter des barbes jusqu'à la ceinture et des cheveux sans contrôle montre une disposition à l'anarchie ou à l'archaïsme. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, je parlais, à votre étonnement, de la barbe à l'intérieur ou à l'extérieur du crâne. Car en même temps, l'avers et l'envers, le dedans et l'endroit, naturellement, sont en correspondance. Pour porter la barbe, il faut d'abord l'avoir en soi.
J'imagine que Fortoul, qui était glabre, doit, à titre posthume, se réjouir de cette défense et illustration de sa politique. Mais tout de même, pour équilibrer les choses, je ne résiste pas, Laurent Teil, c'est au plaisir de vous faire écouter le propos de Francisque Sarcey. Comme tous ses camarades et collègues des lycées de province, ils ont évidemment fait des gorges chaudes de cette circulaire. Ils se sont amusés à faire avancer ou reculer, comme il le dit lui-même, les barbes. Timide d'abord, puis enhardi selon l'autorité de l'administration. Alors il écrit au recteur une lettre où il dit « J'ignore si la nature ne m'a fait cadeau d'une barbe que pour le plaisir de me la voir abattre chaque jour. Mais j'ai peine à le croire. Cette nature m'a donné un visage si bouffi quand la barbe ne l'allonge pas, une peau si sensible au froid et au rasoir, elle m'a creusé au milieu du menton une fossette si bizarre que sans aucun doute elle n'avait pas prévu en me faisant ainsi et l'arrêté du ministre » et la glose des commentateurs. » Il concluait cette lettre. « Ainsi, ayez la bonté, monsieur le recteur, de demander en notre nom à monsieur le ministre ce qu'il entend faire de nos barbes. J'espère qu'il leur pardonnera de bon cœur, mais enfin, s'il les condamnait, s'il fallait les sacrifier encore, je puis vous assurer, monsieur le recteur, que je continuerai de faire avec joie ce sacrifice dont nos élèves doivent retirer tant de fruits. » Je ne s'étonne pas que cette ironie ait irrité et que Sarcey, souriant dans sa barbe, ait été expédié dans une école au fin fond du Finistère.
On pourrait néanmoins rétorquer que peut-être Francisque Sarcey, en dépit de tout son talent, cède à un providentialisme un peu court. Est-ce que, parce que la nature nous a dotés de beaucoup de potentialités, nous devrions toutes les laisser prospérer ? Où irait, je vous le demande, la société, l'harmonie collective, si chacun laissait aller tous ses attributs, quels qu'ils soient, jusqu'à leur extrémité complète.
Soyons envahis de pilosité universelle, la société
deviendrait... Je ne veux rien ajouter.
Mais c'est ce que vous entendez, vous n'ajoutez rien, mais vous avez été extraordinairement explicite au moment même où vous vous taisez.
Il n'y a pas que les poils, mon cher Jean-Noël Jatenay, il y a aussi d'autres tendances qu'on pourrait laisser aller ou d'autres appendices qu'on pourrait laisser se développer.
Je salue en vous le républicain d'équilibre qui se révèle avec sagesse à propos du poil de façon éclatante.
Voilà, je suis peut-être le dernier des démocrates chrétiens.
Avec la chute de Napoléon III, on n'a pas fini d'ailleurs avec la barbe en politique, puisque la question s'est reposée autour de Boulanger, puisque le général Boulanger a tiré un surcroît de popularité en autorisant un certain nombre de militaires à porter la barbe alors qu'on leur interdisait. Donc il y a des cas au contraire où on l'a fait couper et d'autres où on l'autorise. Cette alternance continue.
Vous avez raison d'attirer l'attention sur le général Boulanger, qui est en effet un personnage qui a donné grande dimension à l'aspect pileux de la politique. Boulanger se distinguait par deux attributs pileux, sa barbe blonde, la sienne, et surtout le poil de son cheval Tunis, qui, à la revue de Longchamp, son cheval noir, a fait sensation et a compté pour beaucoup dans la séduction que Boulanger a en particulier exercée sur la duchesse d'Uzès.
Donc en
comme il l'a fait d'ailleurs sur Clémenceau.
En autorisant les militaires, il ne faisait que rendre
alors, il a
au poil ce que le poil lui avait apporté.
Voilà, il a repeint les guérites, comme vous savez, en tricolore, et autorisé le port de la barbe. Cette port de la barbe chez les militaires est un cas qui nous entraînerait un peu loin, mais qui n'a pas duré très longtemps. C'est une tradition de l'armée d'Afrique, qui a commencé avec le duc d'Orléans, et qui s'est terminée, qui a continué avec les Spies. Mais l'armée métropolitaine, et surtout l'armée de conscription, n'a jamais été autorisée à porter largement la barbe, à l'exception des légionnaires.
Et les sapeurs.
Et dans la marine. Il faut savoir que dans la marine, le collier de barbe joue un rôle capital. On le voit, je pense qu'il a été lancé par le prince de Joinville, le cinquième fils de Louis-Philippe, qui, comme vous le savez, est devenu amiral à 21 ou 22 ans et s'est illustré en bombardant les Marocains à Mogador en 1846.
Il avait la barbe offensive.
Il avait la barbe offensive et il avait un collier qui lui est resté toute sa vie. Et d'autres marins se sont illustrés comme cela. L'amiral Esteva, dont on a oublié le nom aujourd'hui, qui fut résident général à Tunis.
En Tunisie.
Voilà, portait lui aussi une barbe très fournie, ce qui n'a pas suffi à le sauver. Mais la barbe est restée, et encore aujourd'hui, dans la tradition maritime, alors que dans la tradition terrestre, elle n'est plus répandue.
S'il était nécessaire de trouver encore un autre motif d'affirmer l'actualité du sujet, je le trouverais dans la dernière interview qu'a donnée José María Aznar avant de quitter le pouvoir dans Le Monde, où il explique ceci, ça vous a peut-être frappé, Laurent Theis, il explique que mes conseillers en communication m'ont, quand je suis arrivé au gouvernement, vivement encouragé à couper ma moustache. Et il m'expliquait que si je la coupais, ça me gagnerait 2, 3 ou 4 points dans les sondages. J'ai refusé et ça n'a pas empêché mon autorité de se maintenir pendant ces 8 années. Alors là, on est exactement entre le dérisoire et le sérieux, et l'anecdotique et le profond.
Il est possible que l'habileté suprême de la communication soit de prendre le contre-pied des conseillers en communication. Quant à l'issue du gouvernement Aznar, il y a des circonstances telles que le port de la moustache ne me paraît pas décisif. Et je ne sais pas si on retiendra d'Aznar qu'il était l'homme de la moustache. Qu'il fût l'homme du poil, il l'était par son nom, puisque, comme vous le savez, en gascon, en basque, Aznar signifie loup.
Ah, et bien ce sera notre dernier mot. Est-ce qu'une manière d'affirmer que, quelques passionnés que nous soyons tous les deux par ce sujet vraiment sans fond, sans limite, des relations entre le poids et la politique dont nous venons de parler pendant une heure, ne sommes pas obsédés au point de penser que c'est la seule causalité dans le cours de l'humanité et dans l'histoire des hommes.
C'est peut-être partie des causes prochaines, mais pas des causes premières.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Laurent Theis, je voudrais donner le titre de votre livre consacré à Robert le Pieux, qui, à cause de sa barbe, dont on ne sait toujours pas si elle existe ou pas, est passé en profil perdu dans notre conversation. Robert le Pieux, le roi de l'an 1000, vous avez publié ce livre chez Perrin en 2000 et il vous a valu, je salue, le grand prix de la biographie de l'Académie française.
Baba
C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet avec Agnès Chauveau et avec Patrick Molinier, Jean-Richard Dufour, Yaël Mandelbaum, Meryl Moneghetti, Virginie Lebrun ainsi que Florence D'Artois pour les Archivinas.
J'ai de la barbe.
T'as de la barbe.
Nous avons et vous avez de la barbe. Car un jeune homme qui sort sans sa barbe, c'est un repas sans vin, un soleil sans rayon.
On poil au menton. On poil au menton. Poil au menton. Poil au poil au poil au poil au poil au menton.
J'ai de la barbe.
T'as de la barbe.
Nous avons et vous avez de la barbe.
Nous sommes les barbus, les malheureux barbus. Jamais déçus, jamais vaincus.
Poil au poil au poil au poil au poil au menton.
Vive la barbe,
grâce à la barbe, non, jamais rien n'est perdu.
Vive les barbus,
vive la barbe,
grâce à la barbe, le pays sera défendu.
Vive les barbus,
plus de menton, plus de visage glabre.
Il faut des boucles, des pieds et des mentons velus.
Vive la barbe,
grâce à la barbe,
non, jamais rien n'est perdu.
Vive les barbus,
vive la barbe,
grâce à la barbe, le pays sera défendu.
Vive les barbus,
plus de menton, plus de visage glabre.
Il faut des boucles, des pieds et des mentons velus.
Oh, quel plaisir d'avoir une belle barbouze et de s'en servir.
Ah, quel plaisir d'avoir une belle barbouze et de s'en servir.
Avec
du poil, avec du poil,
du poil tout fait.
Vive la barbe et les barbus.
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 Et les barbus.
Vive la barbe et les barbus.
Vive la barbe et les barbus.
Barbus.